Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, c'est assez inhabituel pour être signalé. Ouais. Près de 70 revues, notamment de sciences humaines et sociales, se sont déclarées en lutte ou même en grève contre la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Oui Clara, et aussi contre la réforme des retraites qui pénalise les chercheurs. Comme l'indique Isabelle Tisse-Saint-Jean sur le site AOC, si le gouvernement ne reprend pas à son compte les chiffres donnés par plusieurs syndicats qui estiment à la baisse de pension à plus de 30% par rapport au système actuel, il acte dans l'étude d'impact accompagnant la réforme le fait que ces personnels seront effectivement des perdants de la réforme. Mais le fond de l'affaire concerne la situation actuelle de la recherche et de l'enseignement supérieur qui souffre d'un déficit chronique de financement, se traduisant notamment par une baisse des recrutements de l'ordre de 38% entre 2008 et 2016 dans les principaux organismes de recherche, avec un accroissement considérable des CDD. L'annonce de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de revaloriser les salaires des nouveaux entrants, qui passeraient de 1,34 à 2 SMIC, ne peut masquer le fait que son objectif affiché d'atteindre les 3% de PIB pour la recherche à la fin de la loi de programmation, eh bien ces 3%, la France devait les atteindre en 2010. Concrètement, pour les revues scientifiques, se mettre en grève, cela signifie qu'elles cessent d'examiner, de publier des articles jusqu'à nouvel ordre. L'objectif est aussi d'attirer l'attention sur tous les personnels, ingénieurs d'études ou secrétaires de rédaction, formés au métier de la documentation et de l'édition, sans lesquels les revues académiques en tant qu'objet physique ou numérique n'existeraient pas. Avec les scientifiques qui évaluent les textes, les discutent, les amendent ou les rejettent, ils contribuent à une économie de la connaissance efficace, comme le souligne la Tribune collective publiée dans Le Monde, une économie soutenue par les bibliothèques universitaires qui achètent les revues à l'unité ou en bouquin sur des plateformes numériques. Cette offre en ligne, gratuite pour les étudiants, permet une diffusion hors du champ universitaire. Les journalistes, ainsi que les enseignants, les associations, les élus, les citoyens bénéficient d'un apport substantiel de connaissances fiables et renouvelées. Une économie donc adossée à une infrastructure invisible, celle du service public de la recherche, et tout est lié. Le site La Vie des Idées publie un dossier complet intitulé « La recherche est un bien commun ». La loi de programmation pluriannuelle de la recherche y est en ligne de mire. Le mécontentement gagne les laboratoires, les revues et les personnels qui s'inquiètent des mesures annoncées. Les évaluations seraient plus nombreuses, les financements de moins en moins pérennes. Le statut des enseignants-chercheurs pourrait être réévalué. Le modèle américain, vanté par nos décideurs hexagonaux, mérite du coup d'être examiné, comme le fait Pierre Gervais. Aux États-Unis, les partenariats université-entreprise restent un sujet marginal. Les discussions portent principalement sur le rôle de l'État. État fédéral, experts, grands patrons, présidents d'université, membres du Congrès, tous réclament plus de moyens publics pour financer la recherche. La recherche appliquée, financée par les budgets privés de recherche et développement, se fait essentiellement en entreprise et la recherche fondamentale n'attire pas les fonds privés. Reste le modèle managérial d'évaluation et de mise en concurrence, mais comme le rappelle ce professeur de civilisation américaine, les chercheurs français sont bien placés pour savoir que cette tendance n'a rien de particulièrement américain. De plus, assez ironiquement, ajoute-t-il, ce processus baptisé « américanisation » de ce côté-ci de l'Atlantique est tout aussi critiqué aux États-Unis. Peggy Sénac, Claire Lemercier, Alexandre Zimmer dénoncent par ailleurs le fait que les politiques publiques françaises concentrent les moyens de recherche sur quelques sites aux dépens de régions entières, creusant les inégalités entre universités dites d'élite et d'autres de masse. Une politique dont de nombreux travaux empiriques démontrent l'inefficacité. La mathématicienne, la sociologue des organisations et le physico-chimiste des matériaux, tous trois au CNRS, citent notamment une étude québécoise qui a mesuré la relation entre les financements versés à plus de 12 000 chercheurs de toutes disciplines entre 1998 et 2012 et leur nombre de publications et de citations en revue. La plupart des chercheurs fortement dotés ne se distinguent pas spécialement. En conséquence, les auteurs suggèrent de donner plus de petits financements à davantage de chercheurs, une recherche plus fertile fertile en somme, avec davantage d'égalité dans la distribution des fonds. Comme le conclut une autre étude, si le recours aux appels à projets compétitifs pour un groupe de recherche a une vocation instrumentale, il ne doit pas constituer son but.